Stéphane Deldic, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes le vice-président de la Fédération des syndicats chrétiens des services publics. Et aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va parler de la grève des services publics de ce vendredi 10 mars. Et en fait, cette grève, elle clôt en quelque sorte cette semaine de mobilisation du Front commun syndical dans les services publics. Des actions ont été menées notamment par les pompiers et par le personnel pénitentiaire ces mardis et mercredis. Et puis vendredi, eh bien, c'est un appel général à la grève à l'initiative du syndicat CGSP pour l'ensemble des services publics. On imagine par conséquent que cette grève de vendredi sera plus importante que les actions menées auparavant. On s'attend alors à d'importantes perturbations, donc?
Alors oui, c'est vrai que, et vous l'avez rappelé, toute cette semaine, les services publics dans leur ensemble se sont mobilisés. Ça s'inscrit dans un plan d'action beaucoup plus global au niveau de la CSC, puisque vous le savez, depuis des mois, on se bat pour maintenir l'index, on se bat pour les salaires. Et donc, c'était la semaine où les services publics ont rappelé l'importance qu'ils ont. Et effectivement, ici, vendredi, nous avons des perturbations, des manifestations, des grèves dans certains secteurs qui, c'est vrai, risque d'un peu plus impacter les travailleurs et les travailleuses, puisque demain, il y a notamment les chemins de fer qui se mettent en grève.
Alors, ce qui est dénoncé, c'est le manque de personnel, les budgets réduits et la charge de travail croissante dans les services publics. Quels sont les secteurs, ou plutôt les métiers, dans les services publics qui sont les plus impactés par tout ça?
Écoutez, je n'ai pas l'habitude de dresser un tableau noir, mais je crois que l'ensemble des secteurs est plutôt mal desservi. Je crois que l'ensemble des secteurs a payé un lourd tribut depuis une ou deux décennies, a payé un tribut d'être considéré comme une variable d'ajustement budgétaire. C'est-à-dire, vous savez, lorsqu'un nouveau gouvernement s'installe, il prend ses calculettes, il voit ce qu'il pourra dépenser, ce qu'il pourra avoir comme recette, et bien souvent, comme ils font un équilibre, on essaie de limiter les dépenses. Et c'est malheureusement bien dans la poche, bien souvent dans la poche des services publics qu'on vient chercher l'argent, ce qui se traduit donc de manière structurelle à des limitations de budget en matière de recrutement de personnel, et avec en conséquence que, évidemment, le personnel qui part n'est pas forcément remplacé. Et de deux, un problème quand même d'attractivité, même s'il y a toujours des personnes qui se sentent investies ou qui ont une vocation pour un des secteurs que nous représentons, il est clair que ça devient quand même de plus en plus difficile.
À qui profite l'argent pris dans les poches des services publics?
À qui profite le crime? Eh bien, écoutez, je crois que il n'y a pas de réponse simple. L'argent qui est ainsi repris dans la poche des services publics de manière générale, eh bien, il est redistribué à l'ensemble des autres portefeuilles ministériels, puisque, je le rappelle, un gouvernement, ce sont des ministres qui se réunissent deux fois par an hein, pour un conclave budgétaire en début d'année, début d'exercice et en milieu d'année pour un réajustement. Et donc, ce sont ces personnes, détenteurs chacun d'un portefeuille, qui doivent un peu défendre leur beefsteak. Alors voilà, c'est un peu, on discute du bout de gras et de celui qui pourra s'imposer, peut-être aussi malheureusement l'actualité. Hein, si je renvoie par exemple à 2021 et aux inondations, eh bien, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense ont pu faire valoir que, bon voilà, l'utilité des services publics était bien vécue et nécessaire. Ce que le peuple veut, eh bien, le politique et les ministres évidemment tentent d'y répondre rapidement. Et donc, c'est aussi parfois l'actualité qui guide un peu les décisions politiques, malheureusement. Et donc, au-delà de décisions structurelles qu'on attend, en toute objectivité, c'est parfois circonstances de fait qui guident certaines décisions, et donc, eh bien voilà, certains départements en sont victimes.
Mais oui, justement, et il n'y a pas que pour les inondations de 2021 que les services publics sont primordiaux, en fait. Alors, comment on explique ce lourd tribut payé par les services publics?
Encore une fois, il n'y a pas de réponse simple et simpliste ni populiste. Je crois que diriger un pays, gérer un pays en termes de gouvernance budgétaire, ça reste quand même un exercice extrêmement compliqué. Il faut se représenter la gestion budgétaire d'un pays comme étant devant un grand tableau avec différents leviers et il y a toujours des vases communicants, des choses qui font que malheureusement, à un moment donné, ce que l'on lève à gauche, eh bien, fait baisser un levier à droite. Et donc, il y a toute une série de mécanismes qui sont un peu inhérents à cette gestion, en tout cas qui tendent à l'équilibre. Et c'est là où, malheureusement, alors que vous l'avez dit, hein, on peut rappeler la crise de Covid, par exemple, où les soins de santé ont été extrêmement malmenés. Le secteur de la petite enfance a été extrêmement malmené. Donc là, on est à différents niveaux de pouvoir. Hein. Quand je parle des budgets, je parle des gouvernements du gouvernement fédéral, des entités fédérées, bien évidemment. Et donc, ça reste toujours un exercice très compliqué. Mais on ressent quand même, et ça c'est un peu une tendance qui revient de manière systématique, c'est un peu toujours chez nous qu'on essaye d'éviter la dépense, qu'on la privilégiera pour d'autres secteurs, et heureusement, hein, au profit d'autres secteurs, évidemment, et je me réjouis pour ceux qui reçoivent ces budgets. Mais d'un autre côté, ça laisse quand même sur le carreau des gens qui parfois en ont grandement besoin. Voilà, ce qui me vient à l'esprit, c'est la réalisation, par exemple, des policiers qui l'attendent toujours. Vous l'avez soulevé d'ailleurs tantôt, au niveau des agents pénitentiaires, ils sont logés à la même enseigne. Je n'oublie pas les zones de secours qui, elles, sont exemptes puisque les communes n'arrivent pas à absorber les dépenses. Les communes, comme vous le savez, ont déjà dû absorber la réforme des polices. Ils doivent maintenant, depuis 2014, absorber la réforme des zones de secours. Ça devient compliqué. Et le paradoxe, c'est que allez, c'est parfois terrible. Je vous donne un exemple. Quand on a Monsieur Yambon qui a maintenant 5-6 ans, a décidé de réduire la voilure de la protection civile, de passer de 5 à 3 les unités réparties sur le territoire, et notamment de supprimer une unité du côté de Liège, quand on sait ce qui s'est passé en 2021, ça fut une décision extrêmement funeste finalement. Et c'est là que, je le dis souvent, les services publics, c'est un bien précieux, c'est au service de tous. Ça garantit l'accessibilité pour tous et à tous. La garantie d'avoir gratuitement, d'avoir de l'enseignement, d'avoir de la sécurité, d'avoir des soins. Enfin bref, tout le monde comprend quand même rapidement que ce sont des départements régaliens parfois aussi, qui s'ils n'existaient pas, eh bien, mettraient à mal quand même l'équilibre et la paix sociale dans ce pays.
Oui, tout à fait. Et par conséquent, est-ce que vous avez le sentiment, lorsque des actions sont menées, que les revendications sont entendues?
Alors, pour être tout à fait honnête, chaque syndicaliste sait pertinemment bien que revendiquer ne veut pas pour autant dire être entendu. Je vous donne un exemple qui est encore plus parlant. En France, on manifeste depuis des mois contre la réforme des retraites. Est-ce que le peuple sera entendu? Voilà. Est-ce que les syndicats seront entendus? Voilà. Et donc, si on le fait, c'est parce que, un, je pense que chaque représentant de travailleurs, chaque instance syndicale a à cœur de porter un message, de porter un message sur le maintien des investissements, sur le maintien de bonnes conditions de travail, sur le maintien d'avoir un bon salaire, une bonne retraite, d'avoir toujours un équilibre, d'avoir des carrières, des perspectives de carrière qui sont acceptables et un travail faisable. C'est notre job. Alors, on le fait sans trop attendre parfois d'avoir quelque chose en retour, parce que l'expérience, nous savons très très bien qu'il faut demander beaucoup pour avoir peu et même parfois rien. Mais si on baissait les bras, et je peux vous dire que ça fait maintenant 20 ans que je suis syndicaliste, et en 20 ans, j'ai eu des petites victoires, j'ai eu aussi beaucoup de défaites et de déceptions. Mais je crois que quand c'est chevillé au corps, le syndicaliste ne renonce pas, le syndicaliste se met en avant et continue le combat. Et donc, si cette semaine, on a mis un peu le focus sur les services publics, eh bien, c'est l'ensemble, finalement, de la profession syndicale que nous mettons à l'honneur en disant, voilà, les syndicats sont également utiles, qu'ils soient de la fonction publique, des services publics, du secteur privé. Nous devons rappeler finalement aux décideurs, aux décideuses politiques, l'intérêt d'avoir pour les travailleurs et les travailleurs de ce pays des conditions de travail salariales suffisantes et acceptables.
Mais alors, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres actions dans un avenir très proche?
Alors, vous le savez, Sur un plan tout à fait macro CSC, nous n'avons toujours pas été entendus en ce qui concerne la loi 96 sur la révision et la possibilité de revoir les salaires. Nous devons toujours nous continuer à nous battre pour le maintien de l'index, hein, puisque je rappelle quand même que seul l'index a été pendant ces 2, 3 années très compliqué, un des rares garants au pouvoir de vivre. Moi, je dis bien pouvoir de vivre, hein, je dis pas un pouvoir d'achat, mais au pouvoir de vivre des gens. Et donc oui, nous devrons continuer, que ce soit au niveau de la CSC de manière globale ou des services publics en particulier, nous devrons continuer les actions et nous continuerons ces actions, bien évidemment, et d'ailleurs, elles seront de plus en plus pertinentes.
Merci beaucoup Stéphane Deldic d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes vice-président de la Fédération des syndicats chrétiens des services publics. Merci beaucoup pour vos éclairages. À très bientôt.
Avec plaisir.